Et le Seigneur connaît la fin de l'histoire. J'aimerais, et je n'ai pas l'habitude de le faire, de demander à toute l'Église de se lever. Nous allons prendre 2 minutes pour prier pour cette personne que le Seigneur voit et que le Seigneur connaît. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu connais la fin de l'histoire et je le crois aussi. Que nous soyons dans la difficulté, dans la peine, tu nous vois. Dans ton cœur, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes tes enfants. Et nous avons du prix à tes yeux. Apporte ta consolation, Seigneur. Apporte ton réconfort. Apporte ta vie. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié et que nous t'avons prié. Amen. Dieu est bon. Dieu nous connaît. Et Dieu veut que nous passions notre vie à lui plaire. Mais est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est notre quotidien? Est-ce que c'est notre vie? Le titre de mon message ce matin, c'est plaire aux hommes ou à Dieu. Voilà une alternative devant laquelle nous sommes tous placés, et ceci de manière quotidienne. Si je pose cette question à l'église ce matin, faut-il plaire aux hommes ou à Dieu? Je m'attendrai à une réponse évidente. Évidente où vous me direz tous, eh bien, il faut bien sûr plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu bien sûr. Mais lorsque chaque matin ou chaque jour, tu te rends à ton lieu de travail, tu te rends à ton école, tu te rends, en tout cas, à tes activités. Est-ce que ton comportement, peut-il traduire cette évidence? Cette évidence qui dit à Dieu, bien sûr, je dois plaire. Est-ce que c'est notre choix spontané? Ou est-ce que nous luttons pour y parvenir? Et si nous luttons pour y parvenir, qu'est-ce qui fait nos difficultés? Pourquoi nous sommes aussi en difficulté? Qu'est-ce qui fait que nous soyons tentés de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Je pense que pour toi, comme pour moi, je le sais. Je sais ce qui peut parfois susciter en moi de la peur, de l'inquiétude. Mais est-ce que cela doit être? Nous allons dans un premier temps voir ce qui peut nous pousser à plaire aux hommes. Et dans un deuxième temps, des raisons objectives qui peuvent nous pousser à plaire uniquement à notre Dieu et être en conformité avec ce que notre cœur désire. Et pour cela, nous allons travailler sur 2 textes de la Bible. Un qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 12. Et le deuxième qui se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 4. Jésus, lorsqu'il parcourait le pays d'Israël, la Bible nous affirme qu'il faisait énormément de bien. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il rendait la vue aux aveugles. Les boiteux marchaient. Et dans le chapitre qui précède, le chapitre dans lequel nous allons prendre quelques versets, il nous est dit qu'il a même ressuscité un mort en la personne de Lazare. Et parce qu'il l'avait fait, au verset 18 du chapitre 12, il est écrit, « Si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. » Et je vais plus loin, Au verset 37, il nous dit, malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Et je veux lire l'un des plus tristes versets, ou deux des plus tristes versets de la Bible, où il est écrit, avant de lire, il est écrit, et pourtant même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Est-ce que c'est une nouvelle triste? Non, je dirais alléluia, mais c'est la suite qui cause de la tristesse. Parce qu'il est écrit, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient même pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu, plaire aux hommes. Chercher l'approbation des hommes plus que l'approbation de Dieu. J'avoue que dans ma vie, et ça je le confesse, il m'est arrivé d'être tenté de plaire aux hommes. Peut-être parce que devant moi je les voyais et j'imaginais les conséquences dans ma vie si je n'arrivais pas à leur plaire. Oui, à la tentative de plaire aux hommes. Je ne sais pas si tu es différent de moi, mais il y a de fortes chances que tu ne le sois pas, parce que tu es fait de chair et de sang comme je le suis. Et devant certaines situations, il peut t'arriver d'être tenté de plaire aux hommes. Mais qu'est-ce qui fait cela? On le trouve dans le texte que nous venons de lire. Il y avait des gens qui avaient été touchés par le Seigneur, touchés par son action, touchés par les paroles qu'il pouvait donner, touché par le salut qu'il pouvait apporter. Et ils croyaient même en ce que Dieu, en ce que Jésus leur apportait comme nouvelle. Mais la parole de Dieu nous dit, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Oui, la crainte des hommes parfois nous habite. La crainte de l'exclusion, la crainte de l'isolement, la peur de vivre seul, la peur de ne pas appartenir à une communauté, à une communauté de personnes à laquelle on désire adhérer. Et s'ils avaient peur, ces personnes du temps de Jésus, c'est qu'ils avaient de réelles raisons d'avoir peur. La parole de Dieu nous dit, au chapitre 9, donc dans le chapitre précédent, et au verset 22, on dit, en effet, les autorités juives avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tout ce qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Et pourquoi ils avaient pris cette décision si dure? C'est parce que Jésus, à un moment donné, avait guéri un enfant aveugle et que sa popularité devenait grande. Son influence sur la société devenait grande. Et par la même occasion, les pharisiens, qui étaient les autorités religieuses de l'époque, perdaient leur autorité. Alors il fallait une fatwa, il fallait une décision qui puisse freiner tout ce qui allait vers Jésus. Les autorités juives avaient décidé d'exclure de la synagogue tout ce qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Peur de perdre leur honneur. La parole de Dieu nous dit, parmi ceux qui avaient cru, il y avait même des dirigeants. Ces dirigeants ne rentraient-ils pas par leur conversion en contradiction avec les autorités de leur pays? Les pharisiens, les sadducéens à l'époque avaient une certaine influence sur le peuple. Est-ce qu'en avouant ouvertement qu'ils avaient rencontré Jésus, qu'ils s'étaient convertis à Jésus, qu'ils avaient cru en la parole de Jésus, est-ce que cela ne leur ferait pas perdre leur honneur et leur privilège? Ils avaient besoin de reconnaissance. La parole de Dieu nous dit, ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Oui, ces hommes avaient besoin d'acceptation, d'intégration dans une communauté, de besoin de reconnaissance, de besoin d'amour. Le choix de plaire à Jésus, en ce moment-là, devenait un problème pour eux. un problème parce que cela pouvait bouleverser totalement leur vie quotidienne. Oui, ces personnes pouvaient être mises au banc de la société. Il y avait là un risque que ces hommes ne voulaient pas prendre. Et ils ont fait le choix d'être des chrétiens, des croyants dans le secret. Mais est-ce que lorsqu'on est croyant dans le secret, on honore notre Dieu? Je ne pense pas. Mon frère, ma sœur, mon ami, je ne le dis pas pour culpabiliser qui que ce soit, je dis nous sommes tous, autant que nous sommes, soumis à ces pressions de l'extérieur. Pour les hommes de la période de Jésus, de l'époque de Jésus, ce choix a eu des conséquences dans leur comportement. Il y a une influence dans leur vie. Imaginez, vous pensez ceci, vous pensez X, en face de vous, il y a quelqu'un qui pense Y et vous savez qu'il a de l'influence sur vous. C'est à contre-cœur que vous direz certainement, je pense X, je pense comme toi. Dans mon cœur, il y aurait de la frustration de ne pas exprimer ce qu'il y a dans mon cœur, de ne pas vivre en adéquation avec mes pensées. Voilà ce qui se passe. Ils vont à l'encontre de leurs convictions profondes. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Du coup, leur vie n'est pas une vie authentique. J'aime bien le nom du groupe de jeunes d'ici, authentique. Parce qu'ils ont décidé, ces jeunes-là, de mener une vie authentique, une vie en conformité avec leurs convictions. Or, lorsqu'on est un chrétien caché, la probabilité est forte pour que nous soyons hypocrites. Parce que nous n'allons pas vivre comme il se doit. Nous allons vivre pour ne pas choquer. Et c'est là le problème. Un impact aussi sur leurs sentiments, ils vivent frustrés. Celui qui ne reconnaît pas qui il est vit forcément frustré. Plaire à Dieu ou aux hommes, le choix n'était pas aussi évident que cela, comme je le disais en entrée. Toi et moi, on dit, faut-il plaire à Dieu ou aux hommes? Faut-il plaire aux hommes ou à Dieu? Je suis sûr ici qu'à 99,99, si ce n'est 100%, nous dirons, il faut plaire à Dieu. Et c'est une bonne chose de le penser. Mais je disais aussi, pour nous, nous sommes comme ces chrétiens, des premiers jours confrontés à différentes pressions qui peuvent rendre non évidente la réponse à cette question. Faut-il plaire à Dieu ou aux hommes? Et cette pression s'applique sur tous, que nous soyons enfants, que nous soyons adolescents, que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes ou moins jeunes, que nous soyons hommes ou femmes, personne n'est épargné. Nous n'échappons pas à ces pressions dans notre quotidien qui nous poussent à nous déterminer, à prendre position. Mais quelle est la position que nous prenons? Et parfois, lorsque nous admirons quelqu'un, lorsque quelqu'un a une position d'autorité, nous voulons faire comme lui, quitte à parfois déplaire à notre Dieu. À l'école, où nos enfants fréquentent, ma peur, c'est souvent de réaliser qu'un jour, d'autres ont eu une influence sur lui et lui ont fait changer la voie que je m'évertue à lui enseigner. J'ai peur dans mon cœur qu'il ait peur d'être exclu d'un groupe et qu'il se mette à faire n'importe quoi. Parce qu'il a besoin d'appartenir à un groupe. Tous, on a besoin. Et c'est parfois un besoin légitime. Dans un collège, un jour, on malmenait une jeune fille parce qu'elle ne pensait pas comme les autres. Et lorsque des garçons ou des filles se décidaient à ne pas participer dans ce lynchage, ils étaient mis à l'index. Non seulement ils étaient mis à l'index, mais on les excluait du groupe. Ils n'étaient pas normaux. Donc cela a influencé certains qui changeaient d'avis et pour être dans le groupe, faisaient comme les autres. Oh, nos enfants sont soumis à ces pressions. La parole de Dieu nous invite à les enseigner de vivre chaste, de vivre pur, jusqu'à ce que, si Dieu le permet, qu'ils se marient. Est-ce que c'est la théorie ambiante? Lorsque tu n'as pas de petits copains, de petites copines, est-ce que tu n'es pas considéré comme un extraterrestre au milieu de ta génération? Je sais, parce que j'ai eu parfois des entretiens où il y a ce sentiment qui ressort, la difficulté de vivre indexé par ce qui nous entoure. La tentation de plaire peut motiver notre façon de vivre et parfois nous éloigner de Dieu. Je pense à nos jeunes qui parfois en âge de se marier ne trouvent peut-être pas chaussures à leurs pieds à l'église. Et à côté, quelqu'un leur fait du pied et fait tout ce qu'il faut. Et parfois, ils rencontrent quelqu'un de bien et quelqu'un de très bien même quand ils comparent aux personnes qu'ils fréquentent dans l'église. Quelqu'un avec une morale nette, claire, clean, mais qui parfois ne partagent pas leur foi ni leur conviction. Ne sont-ils pas tentés de lui dire, mais tu es parfait, tu n'as même pas besoin de Jésus, viens, baptise-toi, et nous allons faire l'affaire, on va se marier. Ça arrive. Mais est-ce que lorsqu'ils le font, ils sont droits? Je reste dans le point, sur le point de sentiment. Est-ce que nous vivons toujours en adéquation avec ce que nous sommes, le chrétien que nous sommes? Il y a quelque temps, un peu plus de 20 ans déjà, je voulais me marier. Je pense que lorsqu'on se met à courtiser une jeune fille, on essaye de présenter son plus beau profil. Parce qu'on ne veut pas louper. Surtout quand notre cœur est pris. On ne veut pas louper l'occasion. On se dit, si on la loupe, quelqu'un d'autre va ramasser le jackpot. Parce que pour nous, c'est le jackpot. Alors, on ne montre que son bon profil. Pourtant, l'honnêteté du chrétien que nous sommes devait nous pousser à montrer tous nos côtés pour qu'il n'y ait pas de tromperie dans la marchandise, entre guillemets. Mais c'est ce qui arrive parfois. Au travail. Permettez-moi de balayer certaines situations qui sont une autre réalité parce que je veux parler avocat. Est-ce que parfois on ne trouve pas tentant de calomnier un collègue avec les autres? Et spécifiquement le patron qui est bizarre? Et lorsqu'on se met de côté, et je raconte une expérience vécue, vous êtes indexé. Vous êtes indexé. Et dans votre cœur, vous vous posez la question, dois-je céder? Dois-je honorer mon Dieu? Je suis pasteur. Donc, en quelque sorte, entre guillemets, leader. Et la tentation du leader est parfois de se faire aimer. Est-ce que parce que j'ai envie de me faire aimer, je ne dois pas prêcher l'évangile comme il se doit? Il y a parfois cette tentation de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que tu es dans une position de leader et dis-tu aux gens ce qu'ils veulent entendre parce que tu veux être aimé? Là encore, tu fais quelque chose qui n'est pas agréable à ton Dieu parce que tu n'es pas vrai dans ce que tu es. Oh, j'ai en mémoire une triste histoire, et c'est dans la vie de couple. Une jeune femme qui s'était convertie, mais son mari ne l'était pas. Le mari a mis une telle pression et lui a demandé de choisir entre son Dieu, demander à cette dame de choisir entre son Dieu et lui. Elle a regardé, elle ne travaillait pas. Elle s'est dit, s'il me lâche, je suis foutue. La peur de perdre son privilège a fait qu'elle cache, qu'elle mette sous le boisseau sa vie de chrétien. Elle a démissionné. Plaire à Dieu ou aux hommes, ou plaire aux hommes ou à Dieu, telle est la question, telle est l'alternative devant laquelle nous sommes placés. Le choix n'est pas aussi évident que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi au moins? Mais dans le Proverbe 29, au verset 25, voici ce que nous dit Dieu dans son conseil. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. Mais il y a une bonne nouvelle qui suit, c'est que l'Éternel protège ceux qui se confient en lui. Et c'est là notre espoir. Et c'est là la promesse de Dieu. C'est celle sur laquelle nous devons nous fonder afin d'éviter d'être influencés par ceux qui veulent nous mener dans des chemins qui ne correspondent pas à notre foi, ni à ce que Dieu veut que nous soyons, ni à ce que Jésus veut que nous soyons. J'ai dit tout à l'heure, je parlerai de deux histoires, une dans Jean, une dans Actes des Apôtres. J'en viens donc à Actes des Apôtres, qui va introduire mon deuxième point, plaire à Dieu. Oui, nous pouvons plaire à Dieu dans cette génération qui est totalement opposée à nous. Nous pouvons plaire à Dieu. Tu peux plaire à Dieu. Je remarque que le contexte dans lequel vivent les personnes de cette histoire, Pierre et Jean pour les citer, est le même que celui dans lequel vivaient les personnes qui ont caché leur croyance, qui ont caché leur appartenance à Christ. Il y avait toujours ces autorités religieuses. L'ordre était toujours de ne pas parler du Messie. Mais allait-il se taire? Vous connaissez peut-être Pierre comme moi dans la parole de Dieu. Cet homme fougueux, cet homme plein de zèle, qui alors qu'on voulait attrapé, Jésus a sorti son épée et a coupé l'oreille de Malthus. Mais nous voyons aussi cet homme plein de lâcheté lorsque son maître a été saisi pour être conduit à la croix. Avoir peur d'une petite fille. Mais il y avait une chose qui avait changé. C'est que entre ce Pierre lâche et ce Pierre que nous allons découvrir dans ce texte, il s'était passé une chose. La visitation de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, qui est une force qui nous permet de vivre dans ce siècle en honorant notre Dieu, en vivant d'une manière qui plaise à Dieu. L'ordre était toujours là. Ne pas proclamer Jésus comme le Messie. Mais Pierre et Jean, non seulement ils proclamaient le Messie, mais ils accomplissaient aussi des miracles que Jésus avait accomplis en leur temps, en son temps. Et alors, vous êtes d'accord avec moi? Ça va irriter de manière particulière les autorités religieuses. Lorsque tu décides de faire ce qui plaît à Dieu, tu irrites de manière particulière ceux qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que non seulement ton comportement renvoie sur eux un jugement. À quoi pense-t-il? Pour qui se prend-il? On essaiera autant que faire se peut de te faire tomber pour dire tu es comme nous. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, ils ne vont pas tomber, mais la pression va s'exercer sur Pierre et Jean. Qui après avoir, par la puissance de Dieu, relever quelqu'un, les autorités leur demandent avec quelle autorité faites-vous ces choses-là? Qui vous a donné l'ordre de faire ces choses? Dans Actes 4, 19 à 20, on entend la réponse de Pierre et de Jean. Non seulement, il dit, qui vous a donné ça? Nous vous interdisons désormais de faire cela, de parler de Christ, de vous aligner à la vie de Christ. Nous vous en interdisons. Mais qu'est-ce qu'ils vont répondre? Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Voilà une détermination qui doit être la nôtre. Mais est-ce que nous pouvons le faire par nos propres forces? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais nous pouvons le faire avec la présence de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et avec une détermination, parce que le Seigneur veut qu'on se positionne pour lui. C'est pourquoi ils vont continuer en disant, « Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Ils avaient vu les miracles que Dieu avait faits. Ils avaient entendu le message que Jésus annonçait. « Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu pour délivrer ceux qui étaient dans les liens. » Ils l'avaient entendu, ils l'avaient vu, et ils avaient même été eux-mêmes l'auteur de ces choses. Il dit, « Nous ne pouvons pas nous taire. » Quel contraste! Quel contraste par rapport à la première des situations où on nous dit qu'ils s'étaient tus par peur. Mais voilà que pour cela, il y a une audace particulière. Nous ne pouvons pas nous taire. Est-ce qu'ils parlaient de leur propre force? Non. Parce que face à la force et à la pression des pharisiens, ils n'avaient pas le poids. Mais ils avaient Dieu avec eux. Et lorsqu'on a Dieu avec nous, ça fait la différence. Si tu veux voir la différence dans ta vie, aie Dieu avec toi. Place-le au centre de ta vie, place-le au cœur de ta vie et tu verras la différence. Oui, mais il a fallu qu'ils s'engagent. Il a fallu qu'ils sachent qu'ils ont un prix à payer. Ils pouvaient être mis en prison. Ils pouvaient être mis en minorité. Ils pouvaient être mis au banc de la société. Mais ils en ont accepté le prix. Ils en ont accepté le prix. Ils ont décidé d'obéir, même si cela leur coûte. Ils n'ont pas eu peur de l'hostilité du peuple. La parole de Dieu nous dit, les pharisiens, en tout cas les sadducéens, pour le cas précis, étaient irrités de voir les apôtres enseigner au peuple, leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteront aussi. Ils ont été mis en prison, c'est une réalité qui peut arriver. Mis en prison, ils les arrêtèrent donc et comme ils se faisaient déjà tard, ils les jetèrent en prison. Mais ils avaient un moteur dans leur vie. C'était les promesses de Dieu et leur attachement à Dieu. Ils savaient que Jésus était avec eux tous les jours et qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à ce qu'ils reviennent. Quel est le moteur de ta vie? Tu ne peux pas résister si tu n'as pas un moteur puissant. Et le moteur de leur vie, c'était la présence de Dieu. Le moteur de leur vie, c'était la présence de l'Esprit dans leur cœur. La présence de Dieu, c'était la faveur. Leur moteur, c'était la faveur de Dieu. Je vais revenir sur un verset que j'ai lu tout à l'heure pour aller vers la fin de mon message. La parole de Dieu nous dit, « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » Alors, quel est le défi que tu vas relever? Resteras-tu silencieux ou oserais-tu parler de qui tu es, de ta foi? Oserais-tu la partager? Parce que Dieu a besoin de toi pour le faire. Dieu a besoin spécialement de toi. Parce que dans la sphère où tu évolues, personne ne parlera de Dieu si ce n'est que toi. Il a besoin de toi. Mais malgré toute l'opposition qu'il peut avoir, laisse Dieu être connu au travers de ta personne. C'est ce qui s'est passé pour Pierre et Jean. Alors, plaire aux hommes ou à Dieu? Je laisse cette question dans ton cœur. Et j'espère, secrètement et même ouvertement, que tu diras, j'ai choisi de plaire à Dieu. J'ai choisi de plaire à Dieu. Oui, tu auras des menaces, tu auras des oppositions. Mais celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors vas-y avec toute l'assurance et toute la force que Dieu te donne. Seigneur notre Dieu, je te loue, je te bénis pour ta bonté, pour ton amour envers nous. Je te loue de ce que tu n'as pas eu honte de te déclarer notre frère. Je te loue de ce que tu t'es livré de manière ouverte pour que nous appartenions à ton peuple, pour que nous appartenions à Dieu le Père. Donne-nous, Seigneur, aussi, autant que nous sommes, de nous attacher fortement à toi, de te reconnaître comme notre Sauveur, que ce soit dans le lieu privé ou que ce soit dans le lieu public. Je te demande cette grâce, mon Dieu, au nom de Jésus. Donne cette force à chacun d'entre nous dans cette salle. Merci parce que tu le feras en raison de ta bonté et de ton amour pour nous. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.
De valeur, rien ne s'en approche, non, rien n'est comparable à l'espoir de ma vie. Ta présence. J'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours, où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit dans ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Plus de valeur, rien ne s'en approche, rien n'est comparable à l'espoir de ma vie. Ta présence, oh Jésus. J'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours, où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit dans ta présence, Jésus. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire être émerveillé par ta présence, Seigneur. Par ta présence, ô Jésus, ta présence, Seigneur, ta présence, oh.
Quand tu seras dans des moments où tu pourras, où tu trouveras confronté à un mur, à une épreuve, où des gens voudront te faire taire, quand tu seras à un moment de solitude où il n'y aura personne pour te soutenir autour de toi, je t'invite à te mettre dans cette position d'inviter le Seigneur à venir dans ta vie, d'inviter le Saint-Esprit à venir te remplir, d'inviter Dieu, d'inviter Jésus, d'inviter le Christ à venir à tes côtés. Comme les disciples qui étaient en prison à Philippe. Ils ont adoré Dieu. Dieu est venu, l'ange est venu, il a ouvert les portes. Tous les prisonniers ont été libérés. Quand tu seras dans ce moment de solitude, quand tu seras dans ce moment d'épreuve, appelle ton Seigneur. Appelle ton Dieu. Il va venir. Il va venir. C'est pas juste des mots, c'est pas juste des paroles d'une chanson. C'est une certitude. L'Éternel entend et répond ceux qui l'invoquent. Seigneur, j'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours. J'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours. Où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde, Seigneur, et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde, Seigneur, et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Ta présence, oh, rends-nous plus sensibles à ta présence. Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Oh, rends-nous plus sensibles à ta présence. Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Oh, rends-nous plus sensibles à ta présence. Oh, laisse-nous voir ta gloire et tes bontés. Oh, rends-nous plus sensibles à ta présence. Oh, laisse-nous par ta gloire et tes bontés. voir ta gloire. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire.
Être émerveillé par ta présence, Seigneur.
Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé.